Jacob, la tyrannie de la reproduction. Et je ne voudrais pas commencer par la fin de cet essai passionnant, mais vous évoquez quand même un choc, une prise de conscience devant le film Oppenheimer de Christopher Nolan, où vous avez découvert le repentir, l'angoisse de ce savant à l'origine de la bombe atomique. Est-ce que vous vous êtes identifié, vous, scientifique, qui considérez qu'il y a des avancées qui vous échappent et qui peuvent être problématiques pour les humains que nous sommes?
Alors, il n'y a aucun repentir.
Chez vous?
Chez moi.
Et aucune identification?
Il n'y a aucun repentir parce que je pense que c'est un peu valable pour tous les terrains, y compris sur la physique. Il y a un progrès énorme.
Ouais.
Et en médecine, il y a eu un progrès énorme. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'on ne se pose pas des questions.
Mmh.
Et le but de cet ouvrage, c'était de regarder un peu devant ce qui arrive. Pas tellement derrière, encore que, bien sûr, il y a tellement à dire, c'est pas fini.
Ce que la science nous réserve. Quoi.
Mais qu'on ne se trouve pas devant les faits accomplis sans avoir réfléchi quelles barrières on donne. Parce que souvent, ce qui existe ou ce qui arrive n'est pas tout blanc ou tout noir. Ça, c'est trop facile.
On va en parler, pas de manichéisme, mais attention au pacte faustien, comme vous dites. On y revient après votre portrait réalisé par Olivier Boucreux.
Médecin, naissance et tyrannie, c'est la règle de Troie de René Friedman. 80 ans et une vie de médecin militant qui a démarré en 1970 quand ce jeune étudiant communiste, d'abord spécialisé en traumatologie et orthopédie, est parti en Jordanie fournir une aide médicale aux Palestiniens pendant le Septembre Noir. Un médecin sans frontières, un médecin du monde, qui a d'ailleurs participé à la fondation de ces deux célèbres organisations humanitaires. Un médecin point levé pour le droit des femmes, qui a avoué en 1973 dans un manifeste, avec 331 autres confrères, avoir pratiqué l'avortement.
Est-ce que ce problème de l'avortement concerne uniquement la femme ou véritablement le couple?
Elle concerne la femme et le couple. Il est évident que si le couple est uni, il n'y a aucun problème. Si le couple est désuni, c'est à la femme qui porte l'enfant de prendre sa décision.
La première naissance qui a marqué ce fils de juif polonais, c'est la sienne, en pleine occupation allemande, à Somoulou, dans les Pyrénées-Orientales. Sa légende raconte que les femmes enceintes évitaient la déportation. Le bébé René a en quelque sorte sauvé sa mère. En 1965, encore étudiant, il assiste à sa première naissance à Cuba et réalise, avec cet accouchement non sans douleur, tout ce qui n'est pas mis en place pour le bien-être des femmes. Ce n'est qu'en 1974 qu'il se spécialise dans l'obstétrique et entre à l'hôpital de Clamart dans le service du professeur Papiernik. Il y restera 36 ans, supervisera quelque 70 000 naissances et surtout le premier bébé éprouvé être français le 24 février 1982.
Ça pose, vous savez, un problème qui n'est pas toujours facile, qui est de savoir jusqu'où peut-on aller pour avoir un enfant. Jusqu'où va le désir d'enfant?
De l'irrésistible désir de naissance, son premier ouvrage, à la tyrannie de la reproduction, il n'y a que quelques pas, 38 années, plusieurs livres sur la question, la création d'un centre de PMA à Suresnes et de nombreuses avancées scientifiques.
C'est une médecine énigmatique qui nous amène à être modestes.
Aujourd'hui, la star de l'in vitro, comme le nomme la presse, donne des conférences un peu partout dans le monde. Lui qui a deux enfants et des milliers de fécondations à son actif, se demande encore s'il faut vraiment faire naître à tout prix. Un enfant n'est pas la seule condition du bonheur, dit-il.
Enfant biologique ou enfant adopté? J'ai entendu que vous aviez deux enfants.
Enfant biologique.
Très bien, René Friedman. Alors, vous évoquez les avancées technoscientifiques et éventuellement les lignes rouges qu'il s'agirait de poser dans le futur pour éviter des découvertes qui pourraient nous conduire à des catastrophes. D'une certaine façon, vous déplorez que du désir d'enfant, on soit passé vers une sorte de droit à l'enfant qui autoriserait toutes les dérives, voire des dérives non éthiques, évidemment, puisque c'est des dérives.
Sûr. Vous savez, en fait, en tant que médecin, ce que j'ai vu, c'est des femmes et des couples, mais beaucoup les femmes, bien sûr, qui sont complètement épuisées dans ce projet du désir d'enfant, qui est beau et qu'il faut essayer de satisfaire, bien sûr. C'est le rôle de la médecine, de les aider. Cependant, il y a des moments où on entend, quand on met un frein, on entend une espèce de soupir de soulagement. Parce qu'il y a une pression énorme sur ces femmes, sur ces couples, comme s'il fallait. Et en plus, le fait qu'on leur offre la sécurité sociale, en France, donc la possibilité d'être prise en charge, ça devient un droit. Donc, docteur, je vous ai entendu, vous m'avez dit qu'il y a 0,3% parce que j'ai 42 ans, j'ai pas beaucoup d'ovaires, je fonctionne pas, enfin patati patata. Mais en fait, c'est mon droit.
Alors ça, c'est aujourd'hui. Demain, vous dites, on pourrait redouter la création d'embryons synthétiques.
Ah ben, c'est pas demain, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui.
Ah, c'est aujourd'hui, c'est déjà publié.
C'est quoi les embryons synthétiques?
Les embryons synthétiques, c'est à partir de cellules souches.
Oui.
Ce sont sans fécondation. Mm. C'est à partir de cellules, une transformation de ces cellules vers ce qui va créer les organes embryonnaires. En fait, ça a pour but, parce que, comme toujours, les objectifs sont souvent louables. Mais je veux dire, après, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est là où ça intervient. Mm. Donc là, ça va être de comprendre pourquoi il y a tant de malformations. Effectivement, vous savez qu'il n'y a que 25% de fécondation in vitro qui donne naissance à un enfant en bonne santé. Donc, ça veut dire qu'il y a 75% d'échecs à une tentative. Et même si on les répète, on arrive à 50% d'échecs. Donc il faut accompagner tous ces progrès, y compris cette recherche de voir pourquoi il y a tellement de fausses couches, pourquoi il y a tellement de malformations. Et ça, c'est un motif qui nous stimule.
Mais alors, vous évoquez aussi, dans un futur peut-être un peu plus lointain, ce que vous redoutez, la gamétogénèse in vitro. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques que je comprends à peine, mais en gros, vous dites, à partir du clonage d'une personne, un mois pourra fabriquer une sorte de copier-coller de lui-même ou d'elle-même, et ce sera la fin de l'altérité. Une personne donnera des chances toute seule, ouais. Quasiment.
En deux mots, à partir d'une cellule souche, on a toutes les cellules de l'organisme. Les yeux, la peau, les os et tout ça. Vous pouvez avoir des cellules, les gamètes, c'est-à-dire fabriquer en in vitro des spermatozoïdes, ça existe déjà chez l'animal, et des ovocytes. Mm-hmm. On peut même partir de la même cellule pour avoir les deux,
ouais.
Puisqu'il y a un double au début, puis ensuite ça va se diriger. Donc c'est dans ce sens-là, on va partir de traiter la stérilité masculine d'un homme qui ne peut pas fabriquer des spermatozoïdes, on va pouvoir le faire à partir de ses cellules souches à lui,
oui.
Pas à donneur, mais à
oui.
Lui.
Oui.
Simplement, à partir de là, ça ouvre des champs. Et c'est pour ça que je révèle un peu l'état des lieux,
oui.
Qui n'est pas aussi loin qu'on ne le pense, mm-hmm. Même si ce n'est pas pour tout de suite mm-hmm. En pratique.
10-20 ans.
C'est voilà. Oui. Mais c'est important qu'on y réfléchisse, mm-hmm. Qu'on ne se trouve pas devant le fait accompli. Mm-hmm. C'est ça un peu mon objectif, c'est de dire il faut que la réflexion accompagne tout ce que l'on fait et pose quelques limites. On ne peut pas tout accepter, de même qu'on ne peut pas tout faire pour avoir un enfant. Mm-hmm. Comme vous l'avez dit dans le message, le bonheur existe aussi sans enfant. Il faut soutenir
absolument.
Celles qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus avoir des enfants.
Alors vous êtes totalement opposé, René Kidman, à la GPA, à les mères porteuses. Vous dites que c'est une forme d'esclavage moderne. Mais vous ne croyez pas tous ceux, et ils sont nombreux, hein, les hommes qui disent « J'ai eu un parcours de GPA respectueux avec une femme qui a eu une décision éclairée, volontaire. J'ai tissé des liens avec cette famille. Et donc, pour moi, c'est éthique. » Vous ne pensez pas que ces parcours-là sont éthiques?
Alors, en général, ça ne l'est pas parce que ceux qui parlent, et d'ailleurs, vous l'avez très bien cité, ce sont les hommes qui ont bénéficié, les hommes et les femmes, qui ont bénéficié de cette série. C'est comme si vous demandiez aux propriétaires terriens ou du temps de l'esclavage « Qu'est-ce que vous pensez des esclaves ?» On va dire, bah oui, il y a même des esclaves d'ailleurs qui voulaient être esclaves, qui voulaient rester esclaves. Par contre, si vous posez la question aux femmes, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que.
Aux mères porteuses, vous voulez dire.
Aux mères porteuses, oui. Parce qu'on n'empêche personne de porter un enfant. Mmh. Personne n'est là pour. On essaye de réfléchir sur les dangers, la commercialisation et l'utilisation de l'aliénation des femmes pour autrui. Pourquoi ? Parce que c'est une question de dignité. On est aujourd'hui avec MeToo et tout ce qui se passe sur le respect du féminisme et le fait d'éviter des agressions. Si ça, c'est pas une agression, vous savez, vous avez déjà vu, je suppose, ou entendu des accouchements, comment ça se passe. On fait tout pour que l'enfant colle à la mère colle à l'enfant, le père soit présent, et là, vous les séparez. Donc, cette démarche-là, elle me pose des problèmes. Moi, accoucheur, qui a accouché 30 000 et quelques, donc j'en ai vu, et à chaque fois, ça pose problème. Donc, je manque une réflexion. Alors, il se trouve que plusieurs personnalités interviennent dans le monde de la réflexion pour qu'on se pose la question.
L'utérus artificiel, le biobag, on va en parler avec vous, René Friedman, ouais. Et avec Anna.
Oui, l'utérus ouais. Artificiel qui pourrait être, dans un premier temps, utilisé pour sauver des bébés très prématurés qui seraient nés entre 4 et 6 mois de grossesse, par exemple. Et concrètement, ce biobag, comme vous l'avez appelé, il s'agit d'une sorte de sac transparent en dehors du ventre de la mère, dans lequel le liquide amniotique arrive à se renouveler en permanence. Et l'objectif, évidemment, c'est de permettre aux prématurés de poursuivre leur développement jusqu'à ce que leurs poumons soient suffisamment matures. En 2017, des chercheurs américains de Philadelphie ont déjà réussi des essais concluants sur des agneaux qui avaient pu se développer dans le biobac pendant 4 semaines. Et d'ailleurs, l'un d'eux est encore vivant. Mais cette fois-ci, les chercheurs veulent aller encore plus loin et ont demandé à la FDA, qui est l'équivalent de notre agence de sécurité du médicament, une autorisation pour tester leur utérus artificiel sur des humains, à savoir des nourrissons cobayes. À ce jour, la FDA n'a toujours pas rendu d'avis. René Friedman, est-ce que ça veut dire que dans les années à venir, on peut imaginer mener une grossesse entière hors du ventre d'une femme? Non. Et est-ce que c'est souhaitable?
Pas entière, parce que là, on rentre dans Aldous Huxley, et c'est une autre thématique fantasmatique ou cauchemardesse, bien sûr.
Le meilleur des mondes.
C'est le meilleur des mondes. Vous avez raison. Là, par contre, on parle d'une histoire médicale, vous l'avez très bien expliqué, un accouchement qui se fait beaucoup trop prématurément pour que les néonatologistes puissent prendre en charge cet enfant, et la possibilité d'un sas supplémentaire qui serait donc dans ce biobag artificiel avec une circulation extracorporelle. Les risques sont énormes. La mécanisation de cette partie de la vie pose des problèmes. Est-ce qu'on va franchir le pas ou pas? Mais vous savez, il y a déjà des universités en Europe qui ont reçu beaucoup d'argent pour travailler sur cette question.
Oui, des laboratoires partout dans le monde d'ailleurs qui cherchent à travailler dessus.
Il y en a pas énormément, mais il y a quand même. Donc il est possible aujourd'hui que la FDA donne son accord pour une expérimentation entre guillemets. Voilà, bien fondé, pas bien fondé. Est-ce qu'après ça va être une façon de répondre à d'autres soucis, qui veut je ne veux pas porter l'enfant, on va le mettre. Mais ce n'est pas depuis le début de la grossesse. Hein. Je distingue dans le livre de chapitres, il y a effectivement l'utérus artificiel dès le début, du stade embryonnaire pendant les 18 semaines jusqu'à la viabilité, ou bien il y a ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le biobag d'une prématurité extrêmement précoce.
Et d'autres choses d'ailleurs, énormément d'hypothèses et de questions éthiques passionnantes dans la tyrannie de la reproduction. Chez Odile Jacob, merci d'être venu.
Merci.